RTL Info.
Le journal est signé Myriam Widver.
Bonjour, la cour pénale de Neuchâtel n'a pas cru le prévenu. Elle a confirmé la peine de première instance de 4 ans de prison pour tentative de meurtre. L'accusé a bel et bien tenté de mettre fin au jour de sa mère en juillet de l'année passée à Colombier. Le recul de la biodiversité inquiète à travers le monde, y compris en Suisse. Les ONG attendent de pied ferme des mesures de la part du Conseil fédéral. Warren Barguil a fait valoir son maillot à poids. Le meilleur grimpeur du Tour de France s'est imposé lors de la 18e étape entre Briançon et le col d'Izoard. Chris Froome conserve le maillot jaune devant Romain Bardet. Il va faire beau demain matin. L'après-midi, les nuages devraient revenir. Les températures restent agréables. Les audiences sont restées stables au premier semestre pour BNJ FM par rapport à l'an dernier. En Suisse, vos trois radios RTN, RJB et RFJ ont comptabilisé en moyenne 178 700 auditeurs quotidiens, en légère baisse de 1000 auditeurs. À noter que l'érosion n'est pas observée en Suisse allemande qui comprend la ville de Bienne. BNJ FM y gagne 3000 auditeurs selon les chiffres publiés aujourd'hui par la fondation Mediapulse. La radio Griff progresse en Romandie et a gagné au niveau suisse 1400 fidèles à 43 000 auditeurs quotidiens. De façon globale, les radios privées gagnent des parts de marché face aux radios publiques qui restent dominantes et 85% des personnes de plus de 15 ans écoutent chaque jour la radio. L'homme qui a tenté de tuer sa mère en juillet 2016 à Colombier a été une nouvelle fois condamné à 4 ans de prison. La cour pénale de Neuchâtel a confirmé le verdict rendu en mars par le tribunal criminel. Le prévenu, un accro à la cocaïne, comparaissait pour avoir enroulé un câble électrique autour du cou de sa mère et pour lui avoir posé un couteau sur la carotide Sarah Massy.
L'homme qui était sous l'emprise de cocaïne au moment des faits nie avoir voulu mettre fin au jour de sa mère. Il dit ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. S'il ne s'en souvient pas, eh bien c'est que les choses ne se sont pas passées. Pour la cour, en revanche, les faits se sont bien déroulés comme décrit par la mère, même si elle tente aujourd'hui de minimiser les choses pour aider son fils. Elle n'a d'ailleurs pas porté plainte. Pour les juges, les moyens mis en œuvre auraient pu aboutir à une issue fatale. En mettant le couteau sur la carotide de sa mère, il lui a d'ailleurs dit qu'il ne lui restait que 3 minutes à vivre et de poursuivre que les vidéos de décapitation qu'il regardait lorsque la police est arrivée laissent aussi songeur. Pour la cour pénale, ce n'est pas de son propre chef que le prévenu n'a pas mis ses menaces à exécution, mais uniquement parce que sa mère a su trouver les mots pour le calmer. Les juges ont aussi relevé que ce n'est pas la première fois que le prévenu se montre violent. Accro à la cocaïne, il devra suivre un traitement ambulatoire en prison.
Les parties ont 10 jours pour faire appel au tribunal fédéral. Accident de travail vers 7h ce matin à Pontarlier, en France voisine. Le dysfonctionnement d'un pétrin contenant de la cancoyotte chaude, une spécialité fromagère de la région, a blessé 4 employés de la fromagerie Badeau. Les victimes ont été brûlées au second degré sur différentes parties du corps par des jets de ce fromage, selon le quotidien L'Est Républicain. Elles ont été transportées à l'hôpital et une cellule psychologique a été mise en place sur le site de production. Les causes de l'accident reste à déterminer. Les exportations horlogères sont en hausse. Elles ont augmenté de 5,3% en juin après un redressement déjà aperçu en mai. Le montant des livraisons à l'étranger se sont montés à 1,7 milliard de francs. Ces chiffres ont été publiés ce matin par la Fédération de l'industrie horlogère qui s'en félicite. Sur l'ensemble du premier semestre, les exportations horlogères n'ont en revanche que très légèrement augmenté de plus 0,1%, ce qui équivaut à 9,5 milliards de francs. C'est l'histoire d'un petit garçon qui avait un rêve qu'il a réalisé à l'âge adulte. Les chemins de fer du Kaiserberg à Grange-Pacop, près de Fribourg, sont une des plus grandes maquettes ferroviaires de Suisse. Plus de 2 km de voies sur lesquelles circulent 87 trains. La scène représentée est imaginaire, mais elle est ancrée dans le temps. C'est un vendredi à 11h, un moment donné pendant les années 1990. Le directeur des chemins de fer du Kaiserberg, Nicolas Zapf.
Les années 90, parce qu'en fait, au niveau ferroviaire, c'était des années vraiment intéressantes. Il y avait une grande variété de trains, ce qui n'est plus le cas ou beaucoup moins le cas maintenant. Donc, il a voulu arrêter cette période. Et le vendredi à 11h, c'est parce que c'est presque le week-end. Il y a déjà des activités qui se passent, qu'on peut découvrir sur la maquette. Et puis, automne, parce que voilà, les forêts sont belles, les couleurs sont belles. Et en plus, il fait beau. Donc, c'est un vendredi d'automne à 11h et il fait grand beau.
Mais c'est des fois 23 heures en fait.
Ça peut être 23 heures, effectivement, puisque depuis 2015, on a la version nuit. Chez nous, toutes les demi-heures, il y a 6 minutes de nuit qui tombent sur la maquette. Et là, c'est une nouvelle féerie qui se propose aux visiteurs.
Faire de cette maquette de jour une maquette de nuit, ça a été un travail gigantesque ?
Ça a été un très très gros travail, surtout un défi technologique, parce qu'il a fallu équiper les trains, on a mis des capteurs dans les trains. Donc ça a été 4 ans de développement et de mise en route pour arriver, je trouve, vraiment un résultat qui est fantastique, parce qu'il y a des milliers de LED. Donc c'est une nouveauté sur la maquette qui plaît énormément aux gens.
Les chemins de fer du Kaiserberg ne sont pas ouverts tous les jours pour permettre l'entretien des voies et du matériel roulant. Horaires et renseignements en lien sur rtn.ch, où vous pouvez découvrir la maquette en vidéo. Une succession d'incendies est survenue entre hier et aujourd'hui dans la région de Morra. Ce sont des étincelles dans les moteurs des machines agricoles qui ont mis le feu à la paille très sèche en cette période de forte chaleur. Au total, ce sont plus de 30 000 mètres carrés de cultures qui ont été détruits. Le montant des dégâts n'a pour l'heure pas été communiqué. Les signaux d'alarme se multiplient pour déplorer le recul de la biodiversité. Au plan mondial, une étude annonce la 6e extinction de masse des espèces animales, la 5e ayant été celle des dinosaures il y a 66 millions d'années. La situation en Suisse est tout aussi inquiétante selon les ONG environnementales et l'Office fédéral de l'environnement. En cause, les besoins croissants en espace pour les agglomérations et les infrastructures, l'agriculture intensive, les micropolluants, les plantes invasives et le réchauffement. Diagnostic avec Werner Müller, expert en biodiversité et directeur de BirdLife Suisse.
La biodiversité est en diminution forte en Suisse. Malheureusement, la population ne réalise pas comme la Suisse est encore toujours verte, mais le nombre des espèces protégées ou en danger diminue et c'est assez grave. Le Conseil fédéral a décidé d'une stratégie biodiversité déjà en 2012 et un plan d'action devrait suivre. Et pendant les 5 ans passés, cela n'était pas le cas.
Les organisations de protection de l'environnement pointent ainsi un doigt accusateur vers le Conseil fédéral, qui a certes établi une stratégie ambitieuse en 2012, mais dont on attend les mesures concrètes. Que peut faire un État pour sauvegarder la diversité biologique ? On retrouve Werner Müller.
Ce n'est pas seulement la protection de la nature avec des biotopes, des milieux vitaux pour des espèces, mais ce sont aussi les secteurs de l'éducation, de l'économie où on devrait être actif. Comment on fait des rapports concernant les effets pour le climat, par exemple, on devrait ajouter les effets pour la biodiversité. Dans ce cas-là, les compagnies pourraient réaliser quels sont les effets et peut-être s'améliorer.
Un sujet proposé par Serge Jubin. Le plan d'action du Conseil fédéral est annoncé pour la seconde moitié de l'année. Une femme de 32 ans s'est noyée hier en fin d'après-midi dans le lac de Zoug à Unenberg. L'accident s'est produit vers 17h30. Son corps n'a été retrouvé que ce matin à 4 mètres de profondeur. Et 2 militaires ont été blessés dans un accident près de Knonau, dans le canton de Zurich. Une personne souffre d'une légère commotion cérébrale et une autre a subi des ecchymoses à un bras. 2 chars de grenadiers à roues de type Piranha sont entrés en collision à un carrefour. La justice militaire a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. L'Italie s'informe sur environ 10 000 comptes en banque en Suisse. Les titulaires sont tous des clients du Crédit Suisse. Cette requête de la police fiscale italienne intervient dans le cadre des enquêtes criminelles menées contre le numéro 2 bancaire helvétique. Jusqu'à présent, 191 millions de francs de taxes, d'intérêts et d'amendes ont été prélevés. La nouvelle demande des autorités italiennes concerne un montant total d'environ 7,4 milliards d'euros. Et l'Organisation mondiale de la santé lance un cri d'alarme. Le virus du sida résiste davantage aux médicaments. L'OMS a appelé les pays à prendre des mesures rapidement pour éviter 135 000 décès et 105 000 infections supplémentaires d'ici 5 ans. Selon les estimations, les coûts du traitement du sida pourraient augmenter de près de 630 millions de francs.
Vous écoutez RTN, il est 18h10.
Sport. Pauline Brunner s'est qualifiée directement pour le tableau des 64 de l'épée individuelle au championnat du monde d'escrime à Leipzig. La Neuchâteloise, 62e mondiale, a remporté ses 6 duels du tour préliminaire. Elle affronte dimanche dans le tour final la Hongroise Vivienne Varnay, 103e mondiale. Les Knights repartent en campagne. Le club de football américain de Neuchâtel est à la recherche de fonds. L'objectif, 4 400 francs pour pouvoir financer une vidéo promotionnelle. Le club neuchâtelois a eu l'idée d'utiliser une plateforme de financement participatif. Mais la réaction des supporters est pour le moment plutôt décevante, puisque seules 2 personnes ont promis un don et pour un total de 140 francs. Selon Stéphanie Wenker, responsable de cette campagne pour les Knights, le manque de soutien s'explique peut-être par la période estivale.
On est en plein milieu de l'été, les gens sont sûrement, probablement partis en vacances, donc du coup soit ils n'ont pas d'argent parce qu'ils sont partis en vacances, soit ils ne l'ont pas vu puisqu'ils sont en vacances. Donc il y a déjà ces 2 raisons qui expliquent pas mal. Ensuite, on aurait peut-être espéré que les joueurs donnent un peu plus de leur volonté pour contacter directement leurs propres amis. Un crowdfunding, ça marche à l'usure. Donc, il faut pouvoir convaincre et écrire personnellement à plein de gens. Et c'est vrai qu'on est 5 au sein du comité. Si 5 personnes écrivent chacun à 5 à 10 personnes, bah on en a maximum 50. Mais si 40 joueurs écrivent à 5 à 10 personnes, on arrive à 400 personnes. Finalement, donner 10 francs, ça ne coûte rien. Si 400 personnes donnent 10 francs, on en a 4000. Ça, on aurait peut-être espéré un peu plus. Mais effectivement, est-ce qu'on n'a pas assez communiqué aussi au sein de notre club en disant que ce projet était important pour l'ensemble du club? Ça, on ne le sait pas. On n'a pas beaucoup de retours de tous les joueurs. Et on est quand même en fin de saison aussi. Les joueurs ont eu 3 mois intensifs. Donc, ils ont peut-être un petit peu envie de couper avec l'été et de ne pas de s'investir à 100% comme le fait forcément le comité à cette période de l'année.
Des propos recueillis par David Sanchez. Les Knights sont encore 9 jours pour réunir les 4400 francs. Passé ce délai, leur projet devra être repoussé ou abandonné. En cyclisme, Valère Thiébaut s'est paré de bronze. Le Vaudrusien a remporté sa première médaille lors des championnats d'Europe sur piste junior à Anadia au Portugal. Il a pris part à l'épreuve de poursuite par équipe sous les couleurs suisses. Les Helvètes ont défait la Pologne lors de la petite finale.
Sur la route du Tour, avec le garage Lanthemann de Cortaillot et Saint-Blaise, votre concessionnaire Skoda, véhicule officiel du Tour.
Le meilleur grimpeur du Tour de France fait honneur à son maillot à poids. Warren Barguil a remporté la 18e étape de la Grande Boucle cet après-midi entre Briançon et Izoard. Le coureur français l'a emporté en solitaire au sommet du mythique col tricolore. Après 179,5 km d'efforts, il a devancé le Colombien Darwin Atapuma et le Français Romain Bardet de 20 secondes. Le maillot jaune reste sur les épaules du Britannique Chris Froome. Sur la route du Tour, le résumé du jour est signé Jean-Marie Sarka.
180 km au programme du jour et l'ascension du col de l'Izoard, terme de la dernière étape de montagne de ce Tour de France. C'est Pierre Roland qui allume la première mèche dès le départ de cette étape, mais c'est un pétard mouillé. La bonne échappée se forme après 20 km de course et c'est presque un mini peloton qui se retrouve à l'avant avec 54 coureurs. Un groupe rapidement scindé en deux. Ce sont 23 coureurs qui attaquent la première difficulté du jour, le col de Vars, classé en première catégorie avec un peu plus de 7 minutes d'avance sur le peloton du maillot jaune. Mais tout va se jouer dans l'ascension du col d'Izoard où le Kazakh Alexei Lutsenko décide d'attaquer. Derrière, c'est Darwin Atapuma qui part à sa poursuite, lui qui semble motivé comme jamais en ce jour de fête nationale colombienne. Atapuma rejoint le Kazakh à 6 km de la ligne, puis il part tout seul. Le maillot à poids Warren Barguil part en contre et réussit à revenir sur Atapuma. Le Français est impressionnant et dépose Atapuma sous la flamme rouge. Celui que l'on surnomme Wawa lève les doigts vers le ciel et décroche sa 2e victoire d'étape sur ce Tour de France et sera, sauf accident, maillot à poids sur les Champs-Élysées. Romain Bardet, 3e de l'étape, prend la 2e place au général derrière l'intouchable maillot jaune Christopher Froome.
Voici les résultats du Quintet Plus qui s'est couru cet après-midi sur l'hippodrome de Vichy dans le Prix du Bourgos qui réunissait 15 partants. Il fallait jouer le 10, 14, 5, 8, hélas, le 2 était non partant. On prend quelques nouvelles du ciel et puis d'ici quelques minutes, c'est place aux Archives du Rire sur RTN. Le ciel devrait gentiment se couvrir selon les spécialistes de Météo News. Quelques averses et orages ne sont pas impossibles, notamment sur les hauteurs. Pour demain, dernier jour de la semaine, le soleil devrait être de la partie le matin jusqu'au milieu de journée. En fin d'après-midi, retour des averses et des orages. Le mercure, quant à lui, sera toujours très chaud, voire très lourd. Il fera au meilleur de la journée 22 degrés à La Chaux-de-Fonds et à Dombresson, 25 à Fleurier, 27 à Neuchâtel et jusqu'à 28 degrés à Yverdon-les-Bains et Payerne. Auvergne. Pour la suite du week-end, samedi et dimanche, le ciel sera partagé entre nuages et soleil, avec de possibles averses, notamment pour les fins d'après-midi. Lundi et mardi, passage d'un front pluvieux orageux, avec des températures qui vont gentiment se rafraîchir.